RFI, 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Une heure d'entretien avec des leaders religieux à Goma, Joseph Kabila consulte.
Poignée de main, franc sourire et photo pour la presse. L'ex-président de République démocratique du Congo entend bien se réinstaller dans le débat public. Ses proches font savoir qu'il n'en a pas fini avec les consultations en tout genre. La RDC et cette trentaine d'officiers militaires aux arrêts en détention provisoire, sans procès à l'agenda, la société civile commence à s'en émouvoir. La BAD reste à l'ouest. C'est un Mauritanien qui prend la tête de la Banque africaine de développement. Sidi Ould Ta, élu hier au troisième tour. Maurice Kamto, candidat, peut-être, d'un mouvement qu'on ne soupçonnait guère au Cameroun. La rumeur politique s'agite autour du congrès de l'Union des mouvements socialistes. Explication, bien sûr, à suivre de Yaoundé. 10 000 personnes mortes en 2 ans au Nigeria. Amnesty livre un implacable bilan des 2 premières années de la présidence Tinubu. La violence toujours autant enracinée, notamment dans les états du Plateau et de Benue. Ordre du mérite, enfin, et sonnerie aux morts. La mémoire d'Aaron Boupenza saluée avec les honneurs hier au Gabon. L'ancien international de foot mort brutalement en Chine le mois dernier. Joseph Kabila entame donc une série de consultations. L'ancien président congolais revenu à Goma en début de semaine, ville de l'est de la RDC sous le contrôle de la FCM23 et qui a reçu hier pendant une petite heure des représentants de diverses confessions religieuses. Manière de dissiper les derniers doutes sur sa présence effective sur le sol congolais. Manière surtout de faire savoir qu'il entend jouer un rôle dans le futur, même s'il se garde bien de dire lequel. Ses visiteurs du jour disent espérer que Joseph Kabila s'engagera, patient Ligodi, pour le retour de la paix.
C'est à Kinyogoté, au bord du lac Kivu, à l'ouest de Goma, dans l'une de ses résidences, que Joseph Kabila a reçu les religieux. Tête rasée, moustache soignée, costume sombre, l'ancien président s'est montré peu bavard, fidèle à son habitude. Pendant environ 50 minutes, il a échangé avec ses invités. Musulmans, membres des églises de réveil, représentants de l'armée du salut, orthodoxes, protestants et d'autres encore. Pasteur Joël Amourani, président de la plateforme des confessions religieuses du Nord Kivu, a conduit la délégation.
L'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays.
Selon le pasteur Joël Amourani, Joseph Kabila n'a pas dit qu'il prenait la tête d'une lutte armée. Les religieux lui ont même proposé un rôle plus neutre.
Nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que lui ignore. Il a tout fait pour réunifier ce pays. Et ce même talent existe encore à lui pour qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir.
D'après l'équipe de Joseph Kabila, d'autres consultations sont prévues dès ce vendredi. Une feuille de route sera établie pour la suite et une conférence de presse est également annoncé.
Le retour de l'ex-dirigeant et ses critiques contre le pouvoir de son successeur ont soulevé, on le rappelle, une vague d'indignation. Ses détracteurs rappellent les violations des droits humains commises sous sa présidence ou encore le siphonnage méthodique d'argent public opéré par son clan. Les droits humains en RDC par ailleurs et cette inquiétude exprimée d'une même voix par un collectif d'organisations non gouvernementales, elles disent leur préoccupation en voyant se multiplier ces dernières semaines des arrestations de hauts responsables et d'officiers militaires. Une trentaine de hauts gradés mis au fer depuis le début de l'année, parfois sans qu'ils aient le droit à une assistance juridique quelconque. Correspondance RFI, Pascal Moulégois.
En 6 mois, 29 généraux ont été arrêtés par les services de sécurité, principalement par les renseignements militaires selon les consortiums d'ONG. Parmi eux, 27 seraient originaires de l'Est du pays et soupçonnés d'intelligence avec l'ancien régime ou des sabotages d'opérations militaires. À cela s'ajoutent des dizaines d'autres officiers en détention préventive depuis plus de 2 ans, sans jugement. Le cas le plus récent est celui du général Pierre Bagnier-Cizier, ancien chef de la sécurité présidentielle de l'ancien régime. Malade, il n'a pas accès à ses avocats ni à sa famille. Des ONG demandent des mesures urgentes pour éviter l'irréparable. Ces organisations alertent aussi sur les risques de torture, de mauvais traitements et des détentions prolongées sans procès. Elles appellent à des procédures judiciaires équitables ou à la libération immédiate des détenus. Dans un contexte de tensions politiques et d'insécurité croissante, les ONG réclament des signaux clairs d'unité, de justice et d'égalité devant la loi. Contactées, les autorités gouvernementales et militaires n'ont pas souhaité réagir. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
L'actualité congolaise encore, c'est d'une part l'Assemblée qui ouvre la voie à des poursuites contre le ministre de la Justice. Constant Mutamba va pouvoir être entendu par le procureur sur des soupçons de malversation financière autour de la construction d'une prison à Kisangani. D'autre part, c'est Nicolas Kazadi qui se trouve à son tour dans le collimateur de la Justice. L'ex-ministre des Finances, aujourd'hui député, il est visé par une enquête pour divulgation de secrets d'État et propagation de fausses rumeurs. Une commission d'enquête a été mise en place. Vous écoutez RFI, 6h35 à Kinshasa. La Banque africaine de développement reste ouest-africaine. Le Mauritanien Sidi Ould Tah a remporté hier le troisième tour du scrutin. 76% des voix face au Zambien Samuel Mudzele Maimbo. Il succédera donc au Nigérian Akinwumi Adesina. Sidi Ould Tah, 60 ans, polyglotte, très bon connaisseur de la finance africaine. Il vient de passer une décennie à la tête de la Banque arabe de développement économique en Afrique. Il n'en connaît pas d'ailleurs que les alcôves feutrées, puisqu'il sait aussi comment ça fonctionne concrètement sur le terrain. Écoutez ce qu'il disait au micro d'Ecodici Eco d'ailleurs sur RFI au début du mois.
Les micro, petites et moyennes entreprises représentent aujourd'hui plus de 90% des tissus économiques en Afrique. Et pour la plupart, elles sont dans le secteur informel. Et même celles qui sont dans le secteur informel n'ont pas accès au financement. Il n'y a que 20% des SMI formels qui ont accès au financement. Mon ambition, c'est de créer une agence africaine de garantie. Cette agence va avoir un double rôle. D'abord, elle va aider les petites et moyennes entreprises à bénéficier des financements sans pour autant avoir à présenter des surettes réelles ou des cautions aux banques.
Parce que c'est une vraie difficulté.
C'est un grand frein aujourd'hui pour le financement des petites et moyennes entreprises.
Souvent, les banques sont trop frileuses.
Et on pourrait travailler avec l'intelligence artificielle qui donne aujourd'hui des opportunités importantes. Donc, je pense que la jeunesse africaine, si on renforce l'éducation, l'enseignement des sciences, des techniques et des métiers dont l'économie a besoin et qu'on ouvre l'opportunité pour les petites et moyennes entreprises d'avoir accès au financement, d'avoir accès au renforcement des capacités et d'avoir accès au marché, je pense que le continent va connaître un essor considérable qui va permettre de créer les 20 millions d'emplois dont on a besoin.
Sidi Ould Tah, invité de Bruno Faure, avant donc son élection à la tête de la BAD, émission complète à retrouver sur notre application dédiée RFI Pure Radio. L'opposant politique camerounais Maurice Kamto est-il en train de tenter un coup de billard à trois bandes en vue de l'élection présidentielle d'octobre ? Demain, l'UMS, l'Union des mouvements socialistes, tient congrès, l'idée étant de désigner un candidat pour le scrutin. Mais le marigot politique bruisse d'une rumeur, puisque ce candidat pourrait être Maurice Kamto. Alors que sa candidature sous la bannière de son parti, le MRC, est menacée d'invalidation, l'opposant y trouverait une porte de sortie pour postuler bel et bien à l'élection d'octobre. Et l'UMS ne dément pas, d'ailleurs, Polycarpe Samba.
Le député Pierre Kouémo et président de l'UMS annonce que le candidat de son parti pour la présidentielle d'octobre devra passer par le tamis d'une primaire en interne. Les candidats doivent être des militants de l'UMS, mais pas que. Des candidatures jusqu'ici externes au parti pourraient bien arriver.
Il y a une autre ouverture à d'autres candidats qui peuvent adhérer au parti. On peut recevoir à tout moment un candidat qui remplit cette condition. Et la seule condition, d'ailleurs qui n'est pas contraignante, c'est adhérer au parti. C'est le préalable.
Cette petite ouverture serait-elle alors un petit passage étroit aménagé par l'UMS pour accueillir la candidature de Maurice Kamto ? Pierre Kouémo admet au minimum des discussions avec le leader du MRC dans le cadre de la plateforme des partis de l'opposition qui travaille à une réforme consensuelle du code électoral.
Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Le Congrès est souverain. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le bien-être des populations. Nous ne devons pas rester fermés. Maurice Kamto est sur une plateforme avec nous. Donc, je ne peux pas vous dire que nous sommes des incollables. Nous sommes dans une plateforme pour la révision du code électoral depuis 4 ans.
La direction du MRC est quant à elle discrète sur cette question, mais au-delà de la candidature de Maurice Kamto, Pierre Kouémo avance que le vrai défi pour l'opposition reste de trouver en son sein une candidature consensuelle. Celle-ci reste possible, affirme-t-il, notamment après la publication de la liste des candidats définitifs que validera le Conseil constitutionnel. Polycarpe Samba Yaoundé, RFI.
Cette actualité politique camerounaise, occasion aussi de rappeler que non, RFI n'a pas organisé de débat vantant les mérites d'une candidature Kamto. Il s'agit d'un fake qui a massivement tourné en ligne, qui a été dégonflé d'ailleurs par notre cellule de vérification. Vous retrouvez tout leur travail sur la page info-vérif de notre site rfi.fr. Eux viennent de compiler 2 années d'actualité qui ne font plus depuis longtemps la une des journaux. Les chercheurs d'Amnesty International se sont penchés sur 2 années de violences armées au Nigeria. Ils indiquent qu'au moins 10 000 personnes sont mortes depuis 2023 et l'arrivée au pouvoir de Bola Tinubu. Près de 6 800 dans le seul état de Benue, 2 600 dans celui du Plateau. Conclusion sans appel, d'Issa Sanoussi, porte-parole d'Amnesty Nigeria.
Rien n'a changé depuis. L'insécurité persiste au Nigeria et les gens souffrent. Le système de sécurité n'est pas très efficace pour protéger la population, ce qui est vraiment dangereux. Et le gouvernement nigérian n'a rien fait de significatif pour résoudre ce problème. Les hommes armés s'emparent de nombreux villages et de nombreuses zones rurales. Ces bandits se rendent habituellement dans ces zones rurales, tuent les gens, brûlent leurs biens et s'en vont. Personne ne connaît exactement leur identité. La plupart des meurtres ont eu lieu dans les états du Plateau et de Benue. L'État islamique opère principalement dans l'État de Borno et peut-être dans certaines parties de l'État de Kebbi. Mais la plupart des meurtres que nous avons recensés ont été perpétrés par des hommes armés. Je ne souhaite pas spéculer sur la question de savoir s'il s'agit de djihadistes ou non, car c'est au gouvernement qu'il incombe de mener une enquête. Malheureusement, le gouvernement ne l'a pas encore fait, et c'est pourquoi Amnesty International appelle encore et encore le gouvernement à faire ce qu'il faut pour enquêter sur ces incidents.
Issa Sanoussi, porte-parole d'Amnesty au Nigeria, propos recueillis par Willy Diallo. Le centre-nord du Nigeria maintenant et cette catastrophe naturelle, les pluies diluviennes qui ont touché avant-hier soir la ville de Mokwa ont causé la mort d'au moins 25 personnes. 10 autres sont toujours portées disparues selon les services de secours. Des dizaines de maisons ont aussi été emportées par la montée des eaux. Nous sommes enfin au Gabon pour refermer ce journal, le Gabon où Aaron Boupenza doit être inhumé aujourd'hui, l'ex-international mort il y a un mois en Chine, qui a eu droit hier à une cérémonie d'hommage national. Le footballeur de 28 ans a été décoré à titre posthume de la médaille d'officier dans l'ordre du mérite. Aaron Boupenza, c'était 35 titularisations sous le maillot des Panthères, 8 buts en sélection. Yves-Laurent Goma suivait une cérémonie empreinte d'émotion, rythmée par la sonnerie aux morts.
La médaille d'officier dans l'ordre du mérite gabonais est épinglée sous le drapeau vert jaune bleu qui couvre le cercueil. Aaron Boupenza vient d'être décoré à titre posthume. L'émotion est à son comble. Dans l'assistance, M. Fouti, ancien international gabonais, venu de Mouila, à 450 km de Libreville.
J'ai joué avec son papa et ses oncles. C'est vraiment mon fils. Je suis très triste par rapport à ça.
La mobilisation du gouvernement pour cet honneur dû à cette vedette qui a porté haut les couleurs nationales fait chaud au cœur des Gabonais.
C'est un hommage mérité. Ça reste un bel hommage avec la présence des plus hautes autorités.
Aujourd'hui, la nation nous rend hommage. Je crois que c'est mérité par rapport à ses prouesses de footballeur.
Au-delà de cette reconnaissance nationale, les proches et amis du défunt restent inconsolables.
C'est triste, sachant qu'il avait la joie de vivre. Et il savait transmettre ça autour de lui. Du coup, vraiment, jusqu'à là, on n'y croit pas. C'est vraiment triste. Ça fait vraiment mal.
Aaron Boupenza sera inhumé ce vendredi dans un mausolée privé, proche du stade de l'Amitié de Libreville, où il s'est illustré par son talent. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
À Libreville et à l'écoute de Radio France Internationale, il est 6h43. Julien Coquelroem, c'est à vous.
Merci, Edouard Dupénoit. À tout à l'heure.